Bienvenue dans la Cour des comptes. Ça y est, le printemps est en pleine explosion. Fleurs et fruits sont là pour nous combler. Et le joli mois de mai. Si on ne s'y marie pas, selon la tradition chrétienne, on est invité à aller gambader dans les bois. Mais on a intérêt à y être en compagnie, de préférence agréable. Il fait si bon. Tout ça pour éviter de rencontrer le diable, qui peut prendre des allures séduisantes pour profiter lui aussi de l'herbe douce du printemps. Mais rassurez-vous, on finit toujours par faire ce que l'on veut du diable. Pauvre diable, que l'on accuse de tous les maux depuis qu'on a créé le paradis. Définition du Larousse, esprit du mal, selon le dogme chrétien, symbole du méchant. Mais cette noirceur ne se retrouve pas dans les cultes et traditions antérieures. Le méchant, le diable, est une des faces de la réalité, et il a son utilité, voire il est sacré comme les dieux, dont finalement il fait partie. Les religions animistes ne connaissent pas le diable. Elles expliquent que le mal, par la colère des ancêtres ou des divinités auxquelles les bons rituels n'ont pas été rendus. Les théologiens qui se penchent sur l'analyse des textes religieux font du diable un ange révolté contre Dieu, déchu et précipité en enfer, qui pousse les humains à faire le mal. Le mal viendrait donc aussi de Dieu. Le diable n'en serait qu'un de ses aspects. Et quand on ne croit pas en Dieu, ou en des dieux, eh bien, on ne croit pas au diable et on se débrouille avec ses propres diableries comme on peut. Dans les contes, le diable rôde à la recherche d'âmes qu'il pourrait entraîner avec lui. Sa méthode préférée est de conclure des pactes avec les hommes, leur faisant miroiter mille et une bonnes choses. Les plus vulnérables, dit-on, mais c'est une invention des bourgeois et des curés, sont bien entendu les pauvres, ceux qui tirent le diable par la queue, et les jeunes écervelés. Mais moi, je connais des adultes qui sont aux mains du diable et en profitent pour nous entraîner dans leur chute. Des diableries, on en trouve dans plusieurs traditions, mais surtout en Europe. Nous allons commencer par une diablerie de chez nous racontée par Grimm, le diable et sa grand-mère. Il y avait une grande guerre en ces temps-là, et le roi avait beaucoup de soldats à son service. Mais il leur versait une si maigre solde que les soldats arrivaient à peine à en vivre. Trois de ces soldats qui en avaient assez se concertent pour déserter. Le premier dit aux autres « Si l'on nous prend, nous finirons sur l'échafaud. Comment donc allons-nous faire ?» Le second répond « Voyez là-bas le champ de blé. Si nous nous y cachons, personne ne nous trouvera et demain, les troupes doivent lever le camp. » Les trois soldats rampent dans le champ de blé et s'y cachent. Mais le lendemain, les troupes ne s'en vont pas. Et les trois soldats doivent rester cachés durant 2 jours et 2 nuits. N'ayant rien à manger et presque morts de faim, ils se décident donc à sortir. « À quoi bon déserter ?» dit l'un, « si c'est pour mourir misérablement. » À ce moment-là, un dragon flamboyant surgit des cieux et se pose juste devant eux. Il leur demande pourquoi ils restent là, terrés. Nous sommes trois soldats qui avons déserté parce que de notre solde, nous ne pouvons pas vivre. Mais de faim, nous allons mourir si nous restons ici. Ou sur l'échafaud, nous allons périr si nous quittons notre nid. Si vous devenez mes serviteurs pendant 7 années, dit le dragon, je vous transporterai au-delà des troupes, si bien que personne ne vous prendra. Nous n'avons pas le choix, mais devons accepter, se disent les soldats. Le dragon les prend alors dans ses griffes, les transporte loin des troupes et les dépose sur le sol. Il donne à chacun un petit fouet et leur dit « Frappez et claquez avec ce fouet, et tout l'or que vous souhaitez vous apparaîtra. Vous pourrez mener la grande vie, posséder des chevaux et voyager en voiture. Mais lorsque les 7 années seront écoulées, vous m'appartiendrez. » Le dragon n'était nul autre que le diable. Et il leur présente un livre dans lequel tous 3 durent apposer leur signature. Puis il ajoute : « Toutefois, avant de vous emmener avec moi, je vous poserai une énigme. Si vous pouvez la résoudre, alors vous serez libre et je n'aurai plus aucun droit sur vous. » Sur ce, le dragon s'envole et s'éloigne. Les soldats font claquer leurs fouets et obtiennent de l'or en abondance. Ils se font confectionner de beaux habits et vont de par le monde. Partout où ils vont, ils vivent dans le bonheur et dans la somptuosité. Ils se promènent à cheval et en voiture, ils mangent et boivent comme des rois, mais ils ne font aucun mal, jamais. Le temps passe vite, et comme les 7 années sont presque écoulées, 2 des soldats sont anxieux. La peur les mine. Mais le 3e leur dit : « Mes frères, ne vous effrayez pas, je trouverai la solution de l'énigme. » Puis, à la date fixée, ils retournent dans le champ de blé et s'y assoient. Les 2 premiers soldats ont toujours leur triste mine. Une vieille femme vient à passer et leur demande ce qui les rend si tristes. « Ah, ce qui nous arrive, vous ne pouvez rien faire. »«
Qui sait ?» répond la vieille femme. « Confiez-moi toujours vos soucis. »
Et il lui raconte alors que, presque 7 ans plus tôt, le diable avait fait d'eux ses serviteurs, qui leur avaient donné le pouvoir de créer autant d'or qu'ils le voulaient, et que si, à la fin de la 7e année, ils ne répondaient pas à l'énigme qui leur serait posée, le diable les emporterait avec lui en enfer. La vieille femme leur dit : « Si vous voulez obtenir de l'aide, alors l'un de vous devra aller dans la forêt. Là, il trouvera un amas de roches qui ressemble à une petite maison, et il y entrera. »
Les 2 soldatrices se disent : « Cela ne nous sauvera pas. » Et il reste assis.
Mais le 3e, celui qui est gai, se lève et va très loin dans la forêt, jusqu'à ce qu'il trouve la petite maison de pierre. Dans la maisonnette, une très vieille dame est assise. C'est la grand-mère du diable. Elle demande au soldat d'où il vient et ce qu'il veut. Il lui raconte tout ce qui était arrivé. Si bien que la vieille dame a pitié de lui et décide de l'aider. Elle soulève une grosse pierre qui bouchait l'entrée d'une cave et lui dit : « Cache-toi là et tu pourras entendre ce qui se dira. Reste assis, sois tranquille et ne bouge pas. Lorsque le dragon viendra, je le ferai parler. Il me donnera la solution de l'énigme. À moi, il me dit tout. Sois alerte. Écoute bien tout ce qu'il racontera. » À minuit, le dragon arrive et demande son repas. Afin de le contenter, sa grand-mère dresse la table, apporte des victuailles et mange en sa compagnie. Au cours de la conversation, elle lui demande comment s'est passée sa journée et de combien d'âmes il s'est emparé. « Oh, aujourd'hui, je n'ai eu guère de succès, mais demain, je dois m'emparer de l'âme de 3 soldats. » « Ah oui ? 3 soldats qui peuvent sans doute encore t'échapper ?» Le diable s'exclame d'un rire moqueur. « Ils seront à moi. Je vais leur poser une énigme à laquelle ils ne pourront jamais répondre. » « Et quelle est donc cette énigme ? Je vais te le dire. Dans la grande mer du Nord se trouve un poisson mort dont sera fait leur repas. Dans une côte de baleine sera taillée leur cuillère. Et un sabot de vieux cheval leur servira en guise de coupe. » Lorsque le diable est au lit et qu'il est endormi, la grand-mère soulève la grosse roche et laisse sortir le soldat. « As-tu bien fait attention à tout ce qui s'est dit ?»«
Oh oui !» répond le soldat. « Je sais ce qu'il faut savoir et cela m'aidera beaucoup. »
Là-dessus, il sort par la fenêtre et s'empresse de retourner auprès de ses compagnons. Il leur explique comment le diable s'est laissé posséder par sa propre grand-mère
et comment il a finalement obtenu la solution de l'énigme. Les soldats sont tellement transportés de joie qu'ils prennent chacun leur fouet, frappent et claquent tant et si bien que le sol est tout recouvert d'or. Le lendemain, le diable se présente avec son livre. Il leur montre les signatures et leur dit « Je vais vous emmener en enfer et là, un repas vous sera servi. Celui qui saura me dire ce que vous recevrez comme repas, celui-là sera libre. Il pourra partir et conserver son fouet. » Le premier soldat dit alors « Dans la grande mer du Nord se trouve un poisson mort dont sera fait notre repas. » Voyant que le soldat avait su répondre, le diable se fâche et grogne, puis il dit « Celui qui saura me dire dans quoi seront taillées vos cuillères, celui-là sera libre. Il pourra partir et conserver son fouet. » Le second soldat répond alors « Dans une côte de baleine seront taillées nos cuillères. » Le diable grimace, grogne de nouveau, puis demande au troisième « Et toi, sais-tu ce qui te servira en guise de coupe ?» Et le troisième répond « Un sabot de vieux cheval me servira en guise de coupe. » Le diable, qui n'avait désormais plus aucun pouvoir sur eux, s'envola en poussant un grand hurlement de colère. Grâce à leur fouet, les trois soldats purent frapper et claquer et obtenir tout l'or qu'ils désiraient. Et c'est ainsi qu'ils vécurent heureux jusqu'à leur dernier jour.
Quand on a des emmerdements, quand on se cherche une maman, quand on a trop de sentiments, c'est pour moi. Quand les enfants sont pas gentils, quand on aime trop son mari ou qu'on voudrait qu'il soit parti, c'est pour moi. Quand on cherche en vain l'amitié, quand on ne peut pas s'exprimer, c'est pas pour la porte à côté, c'est pour moi. L'araignée qui cherche un régime, l'auteur qui court après sa rime, la bavarde qui fait du mime. Cherchez pas, c'est pour moi. Lâchez-moi, j'ai déjà donné. J'en ai assez de vous bercer, il faudrait toute la journée que je materne. Lâchez-moi, ça finira mal. Je ne suis pas un confessionnal, c'est de l'invasion cérébrale, ça me consterne, j'ai mal. Mais ce qu'on voudrait voir fleurir, ce qu'on rêve avant de dormir, ce dont on aime le sourire, où sont-ils? On ne les voit jamais pleurer, c'est à la pince à épiler qu'il faut leur tirer leurs secrets, c'est facile. N'arrosent pas mon paillasson, apprennent tout seuls leurs leçons, ignorent vraiment sans façon leur nombril. Les qui n'ont pas le temps d'être tristes, les qui avouent quand on insiste que le bonheur parfois résiste. Je les cherche, où sont-ils? Lâchez-moi, vous me piratez. En moi vous prenez vos quartiers, en plus vous me barricadez contre les autres. Lâchez-moi, car vous me ruinez. Moi en matière d'amitié, je ne suis pas un gros banquier, mais j'ai mes pauvres cachés. À force de le répéter, je finirai par m'inventer un égoïsme forcené, vous verrez. Je boufferai le récepteur du téléphone et quel bonheur, j'assassinerai le facteur, vous verrez. Je ne vous écouterai plus, je vous laisserai vous pleurer dessus, là vous ne serez pas déçus, vous verrez. La grande sourde qui ricane, l'indifférence à l'œil qui plane, l'écluse qui a fermé ses vannes, ce sera moi, vous verrez. Lâchez-moi, laissez-moi souffler. Je ne suis pas votre bouée, apprenez plutôt à nager, c'est plus utile. Lâchez-moi, et peut-être un soir j'aurai envie de vous revoir. Je dirai, ils sont en retard, c'est difficile. mais j'en garde l'espoir.
J'ai déjà eu l'occasion de faire une émission de contes sur les diables. C'était, voyons, dans une autre vie. Depuis, il a fait la une des médias à plusieurs reprises. Le diable a été dépoussiéré. Dans un article de 2011 sur Libération, Agnès Girard nous dit « Il existe une force de destruction qu'on appelle le diable et que la religion chrétienne a assimilée au mal. Alors que cette force, intrinsèquement liée à la vie, fait partie des conditions mêmes de notre existence. En bref, le diable est en nous. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. » Il semblerait, puisque, nous dit Jean-Didier Vincent, neurobiologiste, l'âme vit parce qu'elle est perpétuellement tentée, bien qu'elle résiste. Tout ce qui vit s'oppose à quelque chose. Le diable est ce à quoi tout s'oppose. S'il n'existait pas, rien n'existerait, car il n'y aurait rien à quoi s'opposer. Qu'est-ce à dire ? Je reste perplexe. Voici un autre conte pour nous aider à cerner ce diable. Le conte du serpent, du diable, des quatre ponts et du ferry. Il était une fois un serpent, vivant sur les terres de Staten Island. Un magnifique serpent, brun et jaune, de compagnie. Abandonné là par son maître, qui décréta que l'île devenait trop petit bourgeois à son goût, et qui enjamba prestement la rivière pour rejoindre Manhattan. Un serpent ne peut avoir de maître que le diable, vous en conviendrez. On comprendra que Satan ait rapidement fait le tour des âmes de la nouvelle Angoulême. Dans les temps que je vous compte, elles étaient peu nombreuses et, le croiriez-vous, tellement influençables. Dorénavant livré à lui-même, le serpent erra durant d'innombrables saisons, sans jamais plus se nourrir, ni jamais s'assoupir, marquant de son maigre sillon les chemins boueux de l'île. On dit qu'il vit passer tant d'étés que sa chair se durcit comme une pierre du désert, et tant d'hivers qu'elle pouvait se briser comme le verre. Mais on dit tant de choses. Puis vint le temps où quelques hommes se firent ingénieurs. Ils bâtirent quatre ponts qui relièrent l'île au continent. Le Bayonne, le Goethals, l'Outerbridge et le Verrazzano. Le serpent, sifflant d'admiration devant de si beaux ouvrages, les emprunta un par un afin d'aller quérir son maître. Mais aucun ne menait à l'île dorénavant maudite de Manhattan. Et le serpent erra, comme nous le faisons tous dans la banlieue. Il erra bien plus longtemps qu'il nous est donné de le faire, car son temps n'est pas compté. Enfin, là du New Jersey et de Brooklyn, il retourna se morfondre sur sa terre de naissance. Et alors qu'il désespérait de ne jamais revoir son maître, un étrange navire orange accosta à Saint-Georges. Un bâtiment portant sur ses flancs gauche et droit l'étonnante inscription « Staten Island Ferry ». On répandit la nouvelle, qu'il arrivait tout droit de la batterie de Manhattan et y retournait sur l'heure et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'heure. Et les passagers qui en descendirent ne le démentirent pas. Le serpent fébrile monta à son bord et quelques 20 minutes plus tard, touchait le sol de l'ancienne Manhattan. Il prit apparence humaine et se mit en quête de son maître. « Avez-vous vu le diable ? » demandait-il aux passants qu'il croisait sur son chemin dans les rues et dans les étages. « Le diable ? Mais il est partout !» lui répondait-il invariablement. Et le serpent chercha partout, comme on le lui conseilla, à Manhattan et ailleurs. Mais partout, il ne trouva toujours que des hommes.
De Socrate, le datura d'Hamlet, la spique de Cléopâtre, l'odanum de Juliette, le poison des esthètes, l'opium de Baudelaire, le pavot des poètes au milieu des éthers. Sans rien à compter de ce filtre violent, silencieux et damné, mon amour inquiétant. Le Realgar rouge de l'Aqua Tofana, imposant à qui bouge la raideur du trépas, la cantharide chair aux amants fatigués et l'amanite panthère qui tue dans la gaieté, la sombre mandragore sous les gibets cueillis et que plus d'un adore pour sa noire magie. Ne sans rien à compter de ce filtre violent, silencieux et damné, mon amour inquiétant. Les subtiles fragrances qui enivrent l'esprit, la fatale vengeance et le cinglant mépris, la lente consomption d'une âme qui s'ennuie et la main qui corrompt un trop vierge fruit. Hé, hey, le temps assassin, et les journées perdues, les souvenirs malins qui torturent et qui tuent. Oh vous, tous les parfums d'une mort très discrète, vous les obscurs moyens, vous les sombres recettes, n'êtes rien à côté. Ce filtre violent, mon amour inquiétant.
Autre interprétation, mais qui est finalement le prolongement de ce que nous dit Jean-Didier Vincent, c'est l'attrait de Satan pour les adolescents. En révolte, comme chacun sait, à la recherche de leur identité. Le mal adolescent, nous dit Isabelle Franck dans Le Monde. La culture des adolescents est remplie de références à Satan, voire le gothisme par exemple, comme antidote à la timidité. Mais il y a des adultes qui en sont là aussi, il faut dire par manœuvre politique, pour s'assurer le pouvoir, qu'on peut d'ailleurs qualifier de Satan, de mal en lui-même. L'ayatollah Khomeini n'a-t-il pas le premier qualifié les USA de grand Satan? Et en réponse, George W. Bush parler de l'axe du mal. Du coup, cette renaissance officielle de Satan a amené la renaissance des exorcismes. Selon le centre diocésain d'exorcisme, ben oui, ça existe, et à Paris, 1500 demandes d'exorcisme par an. Et il y a les vedettes exorcistes, comme le père Amott en Italie, avec 50 000 demandes à son actif. Mais en France, cet exorcisme rejoint la psychopathologie. Les exorcistes font appel aux psychanalystes. Le diable est normalisé. Voici un autre conte. De diable, bien sûr.
Il était une fois un forgeron très pauvre. Tellement pauvre qu'un jour il décide d'en finir. Il monte en haut de la colline et devinez qui il rencontre. Il rencontre le diable. Le diable lui dit « Forgeron, je savais que tu viendrais me vendre ton âme. Je te préviens, elle ne vaut pas cher. Mais comme c'est mon jour de bonté, je vais te donner une pièce qui reviendra dans ta poche. » « Que ça ? si c'est ton jour de bonté, s'il te plaît, donne-moi aussi ce petit sac que tu as à ta ceinture. Il est bien vieux. Il ne doit pas valoir grand-chose. Je te l'accorde. Mais attention, c'est un sac d'où rien ne peut sortir. Le diable disparaît en fumée, après lui avoir donné son sac et sa pièce d'or. À partir de ce jour-là, le forgeron vit confortablement. 10 ans plus tard, jour pour jour, il arrive en haut de la colline et voit le diable. « Tu es plus grand que la dernière fois, non ?»«
Bah oui, pourquoi ?»
Le forgeron ignore sa réponse et dit « Plus grand, tu peux ?» Le diable, plein d'orgueil, s'étend, et il arrive tout en haut des arbres. Le forgeron lui dit « Plus grand, tu peux ?» Et le diable s'étend encore et encore. Il arrive au nuage. « Grand, tu peux, je le vois. Et petit, tu peux ?»«
Mais bien sûr !»
Et le diable rapetisse. Il atteint d'abord la taille d'un arbrisseau. « C'est bien. Et plus petit, tu peux ?» Le diable, toujours souriant, avec suffisance, « Mais bien sûr !» Et il atteint la taille d'un brin d'herbe. « Et plus petit, tu peux ?» Et là, le diable atteint la taille d'une fourmi. Alors le forgeron le prend entre l'index et le pouce, le met dans son sac et rentre en courant chez lui. Il rentre dans son atelier, prend un marteau et tape, tape, tape pendant des heures sur le petit sac. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais revu le diable en Bretagne.
Oh.
Autrefois, il y a de cela très longtemps, Chetouani le Satan était le meilleur ami de Ngu, le dieu. Ils mangeaient ensemble, buvaient ensemble, riaient ensemble, chantaient ensemble. Ils ne pouvaient pas se passer l'un de l'autre. Un jour, après un bon repas partagé, Chetouani le Satan dit à Ngu le dieu : Mon ami, je suis désolé de te dire cela, mais je trouve nos tâches mal réparties. Moi, j'essaye de trouver des locataires pour ce royaume que tu as appelé enfer. Ensuite, sur terre, tous les hommes me maudissent et louent ta bonté. Si on échangeait nos rôles ? Écoute, mon ami, je t'ai créé pour recruter ceux qui dormiront en enfer. C'est ton rôle. Et c'est seulement celui-là. La discussion dure longtemps. Chetouani, le Satan, ne voulait plus être maudit. Il se met en colère, se lève et hurle. « Je m'en vais, je démissionne !» Ngu, le dieu, va voir tous les anges du ciel et leur propose la fonction de son ancien ami. Mais chacun se récuse. « Ngu, malgré tout le respect que je te dois, je préfère ne plus exister que d'occuper une telle fonction. » Ngu laisse donc le poste vacant. Pendant ce temps-là, sur terre, la paix est partout. Les chacals allaitent les chevreaux, les hyènes dansent avec les loups, les tigres rient avec les hommes. Ah, que la vie était paisible. Chetouani observe la terre et se gratte le crâne perplexe. Comment cela est possible ? Il ne s'attendait pas à une telle paix. Il part voir Ngu et lui dit : Mon ami, pardonne-moi. Je veux reprendre mes fonctions. » Ngu pense à l'enfer déserté et conclut que sans Chetouani, ce royaume va tomber en ruine. Alors il prend une calebasse et l'attend à Chetouani. « Tiens, prends ça. »« Qu'est-ce que c'est ?»« Quand tu as démissionné, j'ai enfermé la haine dans cette calebasse. Si tu la casses, tu recouvriras tes forces et tes pouvoirs. » Chetouani prend la calebasse et la casse. Une goutte d'eau tombe sur la terre et se transforme en mouche. Un lézard avale la mouche. Une souris mange le lézard. Elle n'a pas le temps de le digérer qu'un chat l'a déjà déglouti. Une chèvre encorne le chat et l'éventre. Soudain, un homme sort de sa case en hurlant. « La chèvre du voisin a tué notre chat !» Il se précipite sur sa hache et décapite la chèvre. Le propriétaire de la chèvre s'écrie « Pourquoi as-tu tué ma chèvre ?»« Parce qu'elle a tué mon chat !» Les deux hommes se poignardent et meurent. « Ton père a tué mon père !» hurle un jeune garçon. « Et le tien a tué le mien !» rétorque un autre garçon. Chaque garçon appelle sa famille et un long combat s'engage. Un combat qui rapidement dépasse les frontières du village et de la région. Chetouani regarde cette bataille, rit très fort et s'en va voir Ngu. Les deux amis partagent un repas copieux et continuent à boire ensemble, manger ensemble, chanter ensemble, sans pouvoir se passer l'un de l'autre.
Allez, encore un petit conte sur le diable. Celui-là nous vient de Bretagne.
Le diable et le tailleur.
Pendant le mois d'août, la chaleur est accablante et les mouches ne vous laissent pas un instant de repos. Aussi, un petit tailleur, appelé Rue de Cône, en journée dans une ferme, s'en va travailler sous un prunier dans le Courtil. Les prunes sont mûres. Et celles qui tombent à portée de la main du tailleur, il les mange gloutonnement pour calmer la soif qui le dévore. Craignant cependant d'être malade en mangeant trop, il finit par jurer « Que le diable m'emporte si j'en mange encore !» Au même instant, une belle prune lui tombe sur l'épaule. Elle est si appétissante qu'il la croque. « Cette fois, c'est fini, s'écrie-t-il. Que le diable m'emporte si j'en mange une autre !» Un fruit, encore plus luisant et plus beau que le précédent, vient choir entre ses jambes et le tente tellement qu'il n'y résiste pas. Soudain, entendant du bruit derrière lui, le tailleur tourne la tête et voit le diable, qui s'avance en lui montrant un sac dans lequel il lui fait signe d'entrer. Rue de Cône fait semblant de ne pas comprendre, mais Satan le saisit par une oreille en disant « Compère, tu m'appartiens. N'as-tu pas juré que le diable m'emporte si je mange une prune ? Et tu en as mangé deux. » Malgré les cris et la résistance du pauvre homme, le diable le fourre dans son sac, qu'il charge sur ses épaules. En passant à travers une pâture, Satan se rappelle qu'il a affaire à une noce. Il dépose son fardeau sous une touffe de genêt, avec l'intention de venir le reprendre. Un patou, vous savez, ces chiens de berger, amène ses bêtes dans le champ et trouve le sac. Il donne un coup de patte dedans et entend un grognement. « Qui donc est là ?»« Je suis le tailleur, rue de Cône, que le diable a enfermé dans un sac. Délivre-moi, je t'en prie. »« Que me donnes-tu pour cela ?»« Je te coudrai gratis tous les pantalons et je te raccommoderai tes chemises tant que je vivrai. »« À cette condition, je veux bien. » Et le patou délie le sac. D'où le tailleur sort au plus vite. « Si tu veux, nous allons jouer un tour au diable, » lui dit le patou. « Comment cela ? J'ai un bouc dans le troupeau, tellement méchant que mon maître veut s'en défaire. On va, pour le punir, lui faire prendre ta place et l'envoyer en enfer. Bonne idée !» Ils saisissent la bête par les cornes et la mettent dans le sac. À la brune, Satan revient chercher son prisonnier, jette le sac sur ses épaules et s'en va dans son royaume. Une fois arrivé en enfer, le diable vide son sac et le bouc, dont la terre lui brûle les pieds, fait des sauts désordonnés et blesse quatre petits diablotins qui jouaient à la marelle au poids. « Que nous as-tu apporté là ? » crient les autres diables. « C'est un tailleur qui, je le vois bien, s'est changé en bouc. Mets-le vite de dehors et ne ramène plus de tailleur ici. » Le bouc fut chassé de l'enfer. Et c'est à partir de ce moment que les tailleurs, ne pouvant plus aller en enfer, sont quelquefois admis au paradis.
Le diable a beaucoup inspiré les raconteurs traditionnels qui, à la veillée, dans les campagnes, ne tarissaient pas d'histoires effrayantes ou cocasses que les enfants comme les adultes écoutaient de toutes leurs oreilles, quitte à en faire des cauchemars une fois regagné la couche nocturne. Et ces contes ont été recueillis pour faire l'objet de publications comme « Les Évangiles du Diable » de Claude Seignolle ou « Les Contes du Diable en Provence » de Jean-Luc Domange. Il y a donc encore beaucoup de contes et de choses à raconter sur le diable. Mais il faut bien en terminer avec cette émission, malgré l'attrait du diable. Voilà,
c'est la dernière émission de la Cour des Contes pour cette saison radiophonique. Elle sera rediffusée lundi prochain et toujours disponible en podcast, bien sûr. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent été avec suffisamment de soleil pour nous réjouir le cœur.
Bonsoir. Thank you.
se croit les plus mieux, en fait on n'est que dalle. On n'est que croque-monsieur quand la mort a la dalle. On se croit fortiche, on n'est pas très costaud. On est pris en sandwich quand la mort a l'écrou. On joue les forts en gueule, on se targue de vivre. On finit amuse-gueule quand la mort s'enivre. On se voit fier comme l'éclair, on est déjà chocolat. Tout tordu de travers, seule la mort nous foudroie.